Vous êtes toujours sur Radio Pleine Lune, ce sont nos nouvelles. Le Parlement de Strasbourg menace de recaler la Commission européenne. On veut entre autres, 19 commissaires ont été entendus. L'Assemblée s'est dit très peu convaincue, plusieurs ont gaffé et ont pris l'exercice à la légère. On veut entre autres recuser l'Irlandais Flynn, qui n'a pas convaincu, notamment sur la question d'égalité entre les sexes, dossier sur lequel il a montré, dit-on, son inaptitude. Les autres recalés sont par exemple la Danoise Rit Bjerregaard qui a accumulé gaffe sur gaffe. Il y a également Anita Gradin, la nouvelle commissaire chargée de l'immigration et des affaires intérieures qui n'a pas fait grande impression semble-t-il. Il y a également la Française Edith Cresson qui a affirmé mordicus qu'elle n'était pas responsable du dossier de l'éducation alors qu'elle est responsable. Et oui, les Françaises, les femmes n'ont pas brillé pour la Commission européenne, semble-t-il. Toujours plus fort, toujours plus loin dans les techniques de reproduction artificielle. Il y a quelques années, en 1987, une grand-mère sud-africaine avait servi de mère porteuse à sa propre fille. La grossesse s'était très bien passée. Et il y avait 9 mois après l'implantation, la mère grand et grand-mère donna naissance à des triplés, 2 garçons et 1 fille, ses propres petits-enfants. C'est pas mal d'accoucher ses propres petits-enfants. Hein. Cet art tout particulier d'être grand-mère avait fait quelques bruits à l'époque soulevait pas mal de questions. Eh bien aujourd'hui, il y a de nouveau une vraiment bonne nouvelle au sens d'une naissance extraordinaire qui nous vient cette fois-ci d'Italie. C'est une petite fille, Elisabeth, qui est née 2 ans après la mort de sa mère. C'est bizarre. Hein. Elle a été portée pendant 9 mois par la propre sœur de son père génétique. Histoire un peu démente, la vraie mère d'Elisabeth qui souffrait de stérilité s'était fait traiter. On avait prélevé des ovules qui avaient été fécondés, ils avaient été congelés, mais ils n'avaient jamais pu être implantés puisque la mère, la jeune femme, était morte dans un accident de voiture. Après 1 an, plusieurs de ces embryons étaient implantés dans l'utérus de la propre sœur du mari. Celle-ci et son frère entendent ainsi perpétuer, je cite, « ce désir de maternité brisé par une mort précoce ». La grossesse se passe bien et Elisabeth, fille de sa tante porteuse, est donc venue au monde. Juridiquement, le cas est assez compliqué. La loi italienne veut en effet que soit déclarée mère légale celle qui accouche, ce qui fait que légalement, la petite Elisabeth est née fille de sa tante et de père inconnu. Et que tout aussi légalement, elle est devenue la nièce de son propre père. Cas d'école intéressant. L'affaire, là où elle fait scandale et ailleurs, c'est pour son aspect moral, pour ce vertige procréatif qui semble avoir saisi les apprentis sorciers. Et on parle là, bien sûr, des médecins et non des parents, porteurs ou naturels, égarés dans leur propre logique d'amour et de fidélité à la défunte. Jusqu'où aller trop loin, si loin être entre le simple exploit technique et l'errement éthique. Les gynécologues obstétriciens qui ont aidé à l'opération viennent de réussir une grande première, une manière d'inceste purement technique et procréatif médicalement assisté. En Espagne, depuis plus de 3 ans, une poignée de femmes se battent pour que leur village ne soit ni défiguré ni laissé à l'abandon. C'est un quartier en fait arabe de Grenade, il s'agit de l'Albaicín. Elles sont 17 femmes et ce sont elles qui sont chargées de veiller à l'état de leur quartier, l'Albaicín, dans le vieux Grenade. 2 psychologues, une coiffeuse, une couturière, des chômeuses, des femmes au foyer, une brodeuse de mantilles, une institutrice composent le comité directeur bien particulier de l'association pour la sauvegarde de ce quartier qui pourrait être l'un des plus beaux du monde, n'en est pas moins à l'abandon. Quelques jours avant que l'UNESCO ne déclare leur quartier patrimoine de l'humanité, elles ont obtenu une entrevue avec le maire de Grenade. On raconte qu'elles l'ont poussé dans ses derniers retranchements, l'ont invectivé jusqu'à ce qu'il se range à leurs arguments et leur promette de modifier le parcours des lignes électriques qui dénaturent le paysage, de réguler la circulation et de surveiller plus scrupuleusement les nouvelles constructions. En effet, les motifs de mécontentement ne manquent pas. Ce sont les nouvelles constructions qui ne sont pas conformes. Une fois le permis de construction accordé, il n'y a aucun suivi pour s'assurer du respect des règles. En matière d'urbanisme, les normes sont très souples. L'Albaïcine est très complexe. Il faudrait des personnels pour gérer cette complexité, déclare la présidente de l'association. Au nombre des autres nuisances fréquemment dénoncées, la circulation, le stationnement illégal sur la voie publique et la profusion d'antennes et de lignes électriques. En Italie, guerre de religion autour de commissions de bioéthique. Entre autres, le prix Nobel de médecine Rita Levi-Montalcini a démissionné pour protester contre la nomination de plusieurs catholiques conservateurs au sein de cet organe consultatif qui doit décider, entre autres, en matière justement d'avortement et de procréation assistée. Au Japon, une jeune geisha de Kyoto traîne sa patronne en justice. Elle l'accuse de lui infliger des châtiments corporels lorsqu'elle se trompe dans les usages, de la sous-payer et de porter atteinte à sa vie privée. C'est le premier procès du genre au Japon. Jusqu'à ce jour, les maiko, les apprentis geisha, supportaient ces brimades en silence. Kaori Takagi, qui a 21 ans, brise cette tradition de pure soumission. Elle réclame des dommages et intérêts élevés, la restitution des cadeaux des clients que sa patronne s'est appropriée. En France, des intellectuels français ont protesté contre l'attribution à l'écrivaine bangladaise Taslima Nasrin du prix Sakharov décerné par le Parlement européen. Parmi eux, le professeur de pédiatrie Alexandre Minkowski, qui est également aussi un des fondateurs de Oui à la vie. Et celui-ci a soudain très à cœur de défendre l'honneur du Bangladesh, ce pays toujours selon lui très tolérant et très soucieux des droits de la femme. À ses côtés, les philosophes Guy Sorman et Alexis Filonenko, ainsi que l'écrivain polémiste Jean-Éderne Allier et la courriériste du cœur Méni Grégoire. En Suisse, selon une étude sur la représentation féminine lors des élections au Conseil national de 1971 à 1991, les chances d'être élues pour les femmes ne se sont pas améliorées pendant ces 20 ans. Bien au contraire, les probabilités ont même reculé depuis 1983. Si le nombre des candidates a augmenté, en comparaison, le nombre d'élus, lui, a diminué. C'est pour ces raisons qu'entre autres, les Valaisannes ont décidé de pousser les femmes à s'engager en politique. Un groupe de femmes donc cherche des femmes prêtes à s'engager en politique. En lançant cet appel, les Valaisannes, qui en ce moment-là n'ont pas d'élus aux chambres fédérales, ont décidé de réagir. Elles viennent de créer un fonds de solidarité pour soutenir financièrement les candidates aux élections fédérales de cet automne, quelle que soit leur appartenance politique. Toujours toujours en Suisse, pour l'Union syndicale suisse, l'âge de la retraite des femmes aura la priorité des priorités. Lors d'un mini-congrès, on a décidé que l'âge de la retraite des femmes serait l'objectif prioritaire de l'USS ces prochains mois. C'est ce qui a été décidé à Berne, donc, par les délégués de l'USS. Pas question, donc, de se battre simultanément avec la même énergie pour le maintien de l'âge de la retraite et pour l'initiative pour une extension de l'AVS. Autrement dit, la campagne en vue de ces deux objets sera axée uniquement sur un thème, celui de l'âge de la retraite. Le but de l'USS, c'est de remporter la victoire pour le référendum et du même coup obtenir un bon score pour l'initiative. Moi, à vrai dire, je n'y comprends rien, mais j'essaierai d'éclaircir ce dossier une fois avec vous. Et toujours en Suisse, dans les banques, l'emploi féminin est une véritable peau de chagrin. Aujourd'hui, les banques suisses emploient autant de personnel qu'en 1988. Depuis 1990, dernière année de croissance de l'emploi dans le secteur, les banques ont supprimé plus de 6000 postes. Et près de 90% de ces suppressions touchent des femmes. L'explication est assez simple. Les activités qui ont connu les rationalisations les plus spectaculaires sont celles dites de back-office, le support logistique et en particulier le trafic des paiements. Il s'agissait de travaux peu qualifiés, répétitifs, bien sûr féminins, d'où la chute brutale des effectifs féminins remplacés notamment par des scanners. Et pour terminer, le cochon de la semaine, cochon sexiste, cette fois-ci donné au docteur Marie Peters. Marie Peters qui est venue en Suisse pour présenter dans plusieurs villes une grande conférence sur, ou plutôt contre, l'interruption volontaire de grossesse. Elle a fait des conférences au mois de novembre et elle a présenté ses thèses à Genève, Martigny, Fribourg et Berne. Alors voilà, selon Madame Peters, l'avortement, je cite, provoque des troubles plus profonds que le fait de mourir d'un cancer ou d'avoir un enfant handicapé. C'est la femme qui avorte est par définition une mauvaise mère et même quand elle a des enfants, elle s'en occupe mal. Elle aura davantage tendance à exprimer sa colère en faisant subir des sévices à ses enfants et sa désillusion en les négligeant. Vous avez compris, une femme qui a avorté va battre ses prochains enfants, ou même ceux qu'elle a déjà. Ses enfants, toujours selon Madame Peters, donc les enfants vivants, sont des survivants de l'avortement, car leur mère, dans sa cruauté, a peut-être failli les anéantir eux aussi. Madame Peters n'hésite pas à les comparer aux survivants des camps de concentration. Tous, d'après elle, présentent, je cite toujours, des troubles psychopathologiques. Ces enfants sont passifs, soumis, peureux, hostiles pendant leur petite enfance, mais ils explosent au moment de l'adolescence. Rage, violence, suicide, haine contre la société, colère et révolte contre les parents. Dans un tableau récapitulant les conséquences de l'avortement pour la société, Madame Peters cite l'augmentation de la malhonnêteté, de la méfiance dans les affaires, l'endurcissement face à la violence, la baisse de confiance accordée au gouvernement et au système du marché et au système monétaire, ainsi que l'aggravation des tensions raciales et du déséquilibre nord-sud. Ah, vous ne saviez pas que tout cela, c'était dû aux femmes qui avortent. Tout cela ne serait que des conneries si derrière ces mots, il y avait malheureusement des actes, puisqu'on sait que ce sont ce genre de groupes avec ce genre de discours qui ont conduit à de nombreuses agressions, entre autres aux États-Unis, où ces agressions contre des cliniques pratiquant l'avortement ou des femmes qui se font avorter se sont multipliées. En 2 ans, pas moins de 5 personnes ont été tuées par des activistes, tous des hommes, soit dit en passant, comme le soulève Marie-Pierre Dupont, éditorialiste, dans le dernier numéro de Femina. Voilà, c'était Nées Nouvelles sur 93.8 MHz. Dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine. Ooh.
ghigliottina, mentre Caserio, Sante Caserio, jeune anarchiste italien, en 1894, il eut l'idée de venir en France pour tuer le président de la République française, Sadi Carnot, qui, avec l'inguérissable optimisme de tous les présidents, a dit « Tiens, me voilà blessé, et il est tombé mort. » Dormir encore, sans penser à triste horreur, mentre Caserio.
Je n'ai rien dans les oreilles, ça y est, j'entends. Marjolaine au micro de Radio Pleine Lune. Marjolaine pour le Memento. On a des micros un peu fantaisistes ce soir, mais ça n'est pas grave. Et vous allez continuer à écouter un petit peu de musique en attendant donc les quelques coups de cœur. Comme j'ai dit, il y en a peu, mais ils sont bien sûr de qualité. Ce sont des grands coups de cœur. Alors à tout bientôt, on vous remet de la musique.
E spinto a forza il capo entrò nella mandaia dello tronco,
spettacolo di gioia,
la Francia manifesta,
gridando viva il Boia,
che gli tagliò la testa,
gente
grande, senza cuore,
che
ride e sprezza l'ardui dolore,
gente tiranna e senza cuore, che ride e sprezza l'ardui dolore.
Via che son, nous sommes venus ici exactement sur ce plateau pour raconter avec un peu de nostalgie de notre vie de la campagne avec ses rituels et ses fonctions bien enchaînées. Les rituels, ça pourrait être la maman qui chante la berceuse, la fonction, le bébé qu'elle tient dans ses bras et qu'elle veut endormir. Et nous voici vous raconter le changement.
Passion, Domine nostri Gesù Cristo, secundum Matteo, in illo tempore, principe sacerdotum persuaderum populi, ut Iesum perderent, ed ixerunt
videni malefetit, haet illi magis
Ah! Chiusa dentro, chiusa.